Radio Okapi.
Douze heures à Kinshasa, 13 heures à Bunia et Beni. Mesdames, messieurs, voici les titres de votre journal. 4 morts, 2 blessés, c'est le bilan d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF dans la commune rurale d'Oicha au nord Kivu. Une attaque survenue la nuit d'hier mercredi 17 février d'après la société civile locale qui donne ses bilans. Il faut multiplier des investigations pour éviter que la maladie d'Ebola déclarée dans la province du Nord Kivu ne puisse pas affecter la province voisine de l'Ituri. C'est le docteur Jean-Jacques Mouyembe qui l'a dit devant la presse ce mardi à Bunia. L'un des malades d'Ebola serait passé par Biakato dans le territoire de Mambasa. Rebondissement dans l'affaire assassinat de Floribert Tchebeya et Fidel Bazana avec des nouveaux témoignages diffusés par Radio France Internationale RFI. Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, en parle avant la fin de ce journal. Il est notre invité. Merci de suivre ce journal que vous présente Pierrot Elamegi et Willem Lungamba est à la mise en onde. Au Nord Kivu, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF fait 4 morts et 2 blessés dans la commune rurale d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni. C'est dans la nuit d'hier mardi à ce mercredi 17 février. Ce bilan jusque-là provisoire est avancé par la société civile locale. André Kitenge pour les détails.
C'est mardi vers 19h que ces présumés rebelles ADF ont fait incursion dans la commune rurale d'Oicha, précisément au quartier Mbimbi dans la cellule Majengo, une commune où la calmie s'est installée ces 2 derniers mois. Selon le président de la société civile, les assaillants ont dans leur incursion exécuté par balles et armes blanches 4 civils dont 2 femmes et 2 hommes. Outre ces 4 morts, 2 cas de blessés sont signalés parmi la population civile. Un bilan encore provisoire indique le président de la société civile locale d'Oicha. Philippe Paloukou Bonané explique.
C'était hier à partir de 19h30, il y a eu incursion des EDF qui sont arrivés, ils sont venus du secteur de Bévidonk et de Kitevia. Ils ont traversé Kekelibo jusqu'à André dans la commune d'Oicha, dans le quartier Mbimbi, c'est l'île Majengo. Et là, ils ont tué 4 personnes, dont 2 hommes et 2 femmes. Il y a aussi 2 blessés qui sont au niveau de l'hôpital général. Après ça, ils sont rentrés.
Contacté, le porte-parole militaire du secteur opérationnel Sokola 1 Grand Nord dit attendre le rapport militaire afin de donner la version des faits de l'armée. Pour le moment, affirment d'autres sources sur place, c'est un climat de psychose qui s'observe chez les habitants d'Oicha. André Kitenge, Beni Radio Okapi.
Nous restons à Beni cette fois pour parler du rôle qu'un journaliste peut jouer dans une zone opérationnelle, comme nous l'a dit le porte-parole militaire des opérations Sokola 1 Grand Nord, le lieutenant Anthony Mwalushai.
Le journaliste, dans ses vocations, a, n'est-ce pas, la mission d'informer la population. Ce que nous demandons justement aux journalistes, c'est non seulement de ramasser tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux, mais aussi d'avoir des sources sûres d'informations. Et la source sûre, à ce qui concerne l'information sécuritaire, c'est l'armée. Et quand l'armée vous dit, ce n'est pas encore le moment pour parler de ce qui se passe sur le terrain, comprenez que ce n'est pas le moment. Il y a plusieurs raisons que l'armée avance. Nous sommes sûrs que les journalistes sont butés à plusieurs problèmes parce que chaque média a sa ligne éditoriale. Vous allez comprendre que ce n'est pas une tâche facile. Alors, ce que nous demandons aux journalistes, c'est aller au-delà de ses sentiments, aller au-delà de ses émotions, comprendre qu'il est d'abord congolais et que en tant que journaliste, en tant que Congolais, nous faisons face à un ennemi étranger qui est dans notre territoire et nous devons parler même langage avec l'armée pour bouter hors de nuire cet ennemi.
En Ituri, 3 détenus sont morts dans un cachot de la police à Dialasiga. Dialasiga, c'est le chef-lieu de la chefferie des Alours, Juganda, dans les territoires des Mahagi. Des sources sécuritaires renseignent que ces drames dus au manque d'oxygène dans cet amigo très exigu qui abrite plus de 20 détenus. D'autres détenus sont entre la vie et la mort dans cette maison carcérale, affirment les mêmes sources. La société civile locale condamne ces graves violations des droits de l'homme et plaide pour le relèvement des agents du sous-commissariat de la police locale. Le point avec Ezekiel Mouzalia.
La situation des détenus dans cette maison pénitentiaire demeure préoccupante après la mort hier des deux prisonniers au sous-commissariat de Jalasiga en chefferie des Alours d'Ouganda à environ 90 km du territoire de Mahagi. D'après la société civile locale, plus de 20 détenus sont confinés dans une petite cellule d'environ 3 mètres de périmètre sans fenêtre. Les détenus se sentent étouffés dans cette salle exiguë et deux sont morts mardi après 4 jours de détention, affirme la société civile locale. Pendant que les équipes médicales extirpaient les dépouilles de l'amigo, un autre détenu s'est écroulé subitement. Il a été acheminé dans une structure médicale à Aunga, une localité située à 10 km où il a rendu l'âme après quelques heures. Les familles des victimes en colère ont envahi la cour du cachot pour exiger le corps de leurs frères. Une vive tension était observée au lieu du drame. Les manifestants ont été apaisés par une délégation du gouvernement provincial conduite par le ministre de l'Intérieur qui séjournait dans la zone. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et au sud Kivu, la nouvelle dynamique de la société civile exige la délocalisation immédiate de tous les prisonniers dangereux détenus à la prison centrale de Bukavu. C'est là en vue de réduire la criminalité qui refait surface dans la ville depuis quelques jours. Cette structure demande également l'intensification de la lutte contre la circulation des armes et petits calibres. Ceci est contenu dans une lettre ouverte adressée au gouverneur des provinces pour demander la convocation des états généraux de la province. Jean Chrysostome Kijana, président de la nouvelle dynamique de la société civile, est au micro d'Emmanuel Elemejoa Kabedi.
La situation est devenue de plus en plus insupportable. Le banditisme est maintenant installé au cœur même de la ville, même en pleine journée. Les gens qui sont arrêtés, des fois par la population, mais deux ou trois jours après, on retrouve ces criminels encore libres. Et lorsque ces criminels recouvrent la liberté, la première des choses, c'est d'opérer des vengeances. Et nous, on aurait même souhaité que tous ces criminels qui sont déjà condamnés soient délocalisés de la prison centrale de Bukavu, qu'on les amène dans des prisons beaucoup plus éloignées, même à Angenga, en Équateur, qu'on les amène à Buluo et au niveau du Haut-Katanga, dans d'autres prisons où ils auront du mal à recouvrer les libertés. Ça serait parmi les approches pour recréer la confiance dans les chefs de la population. Parce que conséquence, lorsque la population n'a plus confiance dans ses services de sécurité, il y a une certaine tendance à la justice populaire. Or, la justice populaire, c'est quelque chose qui doit être découragé, qui doit être décrié. Et en troisième lieu, il y a cette persistance de circulation incontrôlée des armes légères qui circulent très facilement. On doit aussi songer à contrôler les mouvements d'armes et à reconnaître qui est militaire et qui ne l'est pas.
Le premier décaissement des fonds pour le financement de l'approche DDR communautaire en Ituri, au nord Kivu et sud Kivu, pour être effectif durant cette année 2021. L'annonce a été faite par une délégation de la Banque mondiale en tournée dans la région. Celle-ci a eu une séance de travail sur le sujet hier mardi avec le gouverneur du nord Kivu, Karline Zanzuka Sivita. Bernard Nyangi.
Pour la chef de bureau de la Banque mondiale à Goma qui conduit cette délégation, il ne reste plus que quelques formalités administratives à remplir. Vraisemblablement, les fonds seront disponibles en milieu de cette année, notamment sur le volet DDR basé sur les communautés et la stabilisation de l'Est de la RDC, dit Madame Mona Nibour.
Dans ce premier projet, nous proposons de bâtir sur le succès de certains programmes qui ont été déjà expérimentés, donc de travailler avec les comités locaux de développement et de paie pour aussi financer les priorités des communautés avec une vision de stabilisation, mais aussi de regarder les questions de réinsertion économique des ex-combattants dans la communauté. Donc, on a besoin des partenaires comme le gouvernement congolais et la MONUSCO pour l'apathie en fait de démobilisation. Nous avons discuté des premiers montants, mais oui, on a des fonds qui sont réservés à cette approche.
Rappelons qu'une promesse de 50 millions de dollars américains avait déjà été faite par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour le financement de cette initiative de démobilisation et réinsertion communautaire des ex-combattants. Selon le coordonnateur provincial de DDRC au Nord Kivu, une dizaine de groupes armés actifs dans les territoires de Lubero, Rutshuru, Masisi et Walikale sont déjà disposés à se rendre. Il n'y a que la prise en charge du processus qui faisait défaut, dit-il. Goma, Bernard Ngangi, Radio Okapi.
Nous devons multiplier des investigations pour éviter que la maladie d'Ebola, déclarée dans l'ère des santé des Biena dans les territoires de Lubero au nord Kivu, ne puisse pas affecter la province voisine de l'Ituri. C'est la déclaration du directeur de l'Institut national de recherche biomédicale INRB, Dr Jean-Jacques Mouyembe, mardi à la presse à Bounia, en transit vers la province voisine du Haut-Uele. Selon lui, tout en citant le ministre provincial de la Santé en Ituri, l'un des malades d'Ebola serait passé par Biakato dans le territoire de Mambasa, d'où il y a lieu de renforcer renforcer la surveillance du côté de l'Ituri, a-t-il ajouté. Docteur Jean-Jacques Mouyembe l'a dit au micro de Martial Kizabiamungu.
Maladie à virus Ebola qui a ressurgi, n'est-ce pas, dans le Nord Kivu. Il semble, d'après notre ministre de la Santé, un des malades est passé par Biakatu. Ce qui veut dire que nous devons pousser des investigations pour savoir exactement comment ça s'est passé et faire une surveillance renforcée, n'est-ce pas, dans Biakatu et autour de Biakatu. Les actions sont déjà là. Et nous, INRB, en tant qu'INRB, nous avons déjà envoyé le médicament dont notre molécule MAB-114, qu'on appelle maintenant Ebanga, s'est déjà envoyé. Et l'OMS a déjà envoyé le vaccin et donc les actions vont se faire très 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 vite. Et cette surveillance ne s'arrête pas seulement au Nord Kivu, ça va s'étendre même à l'Ituri comme pendant l'année de l'épidémie 2018-2020.
Dans la province de Lomami, signature lundi dernier du protocole d'accord pour la construction de plusieurs infrastructures de base sur l'ensemble de la province. Ces contrats gigantesques et multisectoriels, chiffrés à 1 700 000 dollars américains, lient présentement la province de Lomami à la société sino-congolaise dénommée Ding Jiang Construction SRL. Les travaux seront financés par cette société de construction et prendront, ça sont du moins, soit 5 ans à dater de la signature du protocole d'accord jusqu'à la finalisation de tous les ouvrages. Écoutons à ce sujet José Yumba d'Oliveira, directeur gérant de la société Jin Jiang Construction SRL, au micro des journalistes de la radio Veritas de Cabinda.
Dans ces contrats, nous avons un palais de la justice de Cabinda à construire, le palais de l'Assemblée provinciale de Lomami, le prison centrale de Cabinda, le centre hospitalière de Cabinda, le complexe sportif de Cabinda, et 4 résidences officielles ici à construire. Et nous avons un aéroport national à construire ici, 7 instituts supérieurs à travers toute la province de Lomami à construire, 3 centres de formation professionnelle à travers toute la province. Donc c'est un grand chantier et nous avons des pont métallique à travers la frontière. Parce que même pour venir ici, vous allez traverser deux fois le bac. Alors il faut jeter le pont pour faciliter l'accès à Bujimayi, là où il y a l'aéroport international, et pour développer aussi Lomami. Donc il y a beaucoup. Hein. Nous avons l'asphaltage de plus de 1285 km. Asphaltage. Et nous avons 4 grands barrages hydroélectriques. Capacité de 60 mégawatts à construire ici. Il y a beaucoup de travail à faire ici à la province.
Page noire dans ce journal, un grand baobab de la culture cet temps, ce mercredi matin à Lubumbashi. Il s'agit de Odilon Kiembe Kasuli Mouila Bantu, mieux connu sous le nom de Mufankolo Walesa. Ce pionnier du théâtre en RDC a tiré sa révérence à près de 91 ans. Cet homme qui a marqué son temps et traversé les générations avec son art fut un grand moralisateur de la société. L'un de ses acteurs et administrateurs de son groupe lui rend ses témoignages. Kassong Banz Amachik, alias Maïch, joint par Jean Gandou.
Mufankolo est l'un des premiers Congolais à se lancer dans les théâtres vers les années 1955, alors que le Congo était encore sous la colonisation. Ils ont été les premiers Congolais à aller faire une tournée en Europe avant l'indépendance du Congo. En 1957 et en 1959, Mufankolo est auteur de plusieurs œuvres théâtrales. À part ça, le théâtre Mufankolo est étudié dans différentes universités en Europe, puisque Mufankolo est maintenant considéré comme un genre littéraire sur le plan théâtral. Il y a même des stagiaires qui viennent de l'Europe, provenant des différentes universités, notamment de la France, Belgique, Allemagne, et même des États-Unis et du Canada, puisqu'ils étudient Mufankolo dans le genre du théâtre Mufankolo. Et en plus de ça, Mufankolo a été le premier au niveau national à faire le théâtre radiophonique vers les années 61-62.
Actualité internationale.
En Mauritanie, une dizaine de responsables, dont le secrétaire de l'aile politique du mouvement abolitionniste IRA, Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, a démissionné du parti. Il désapprouve le rapprochement avec le pouvoir initié par le leader du mouvement, Biram Da Abaid, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ghazouani. Les dissidents ont annoncé mardi 16 février, lors d'une conférence de presse, leur intention de créer un mouvement politique. Grosse polémique au Bénin, depuis que la commission électorale Sénat a invalidé les candidatures majeures de l'opposition. Disqualifiés pour défaut de parrainage, tous accusent le président Patrice Talon de les avoir privés des parrains pour leur dossier. Joël Aïvo, candidat de la plateforme de l'opposition, ne désarme pas. Il demande au gouvernement de faire sauter en urgence ces verrous. Pour le porte-parole du gouvernement, ce qui arrive est de la faute des opposants.
L'invité.
Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, s'exprime sur la suite de l'affaire double assassinat de Floriver Tchebeya et Fidel Bazana, qui connaît un rebondissement après le nouveau témoignage diffusé sur RFI par deux témoins présumés assassins. Maître Willy Wenga s'entretient avec J.R. Lungembo.
Maître Willy Wenga, bonjour. Il y a eu de nouveaux témoignages, non le moindre. Il s'agit des témoins présumés assassins de Tchebeya. Entre-temps, le procès avait déjà rendu son jugement définitif. Aujourd'hui, 10 ans après, est-ce qu'il est possible la réouverture du procès?
La réouverture d'un procès pénal est toujours possible dès lors qu'il y a des faits nouveaux ou des éléments inconnus par les juges qui venaient d'être découverts et qui peuvent avoir de l'influence sur la décision qu'avait pris les juges au moment où ces faits-là étaient inconnus. Et à titre exceptionnel, qu'un procès, quelle que soit la durée, surtout lorsque ça porte sur des faits non prescriptibles comme des crimes contre l'humanité, crimes de guerre et ici dans le cadre de l'assassinat.
Quelle sera alors la procédure?
La procédure à mettre en œuvre, c'est la procédure de la révision en droit pénal congolais et de la compétence de la Cour de cassation. C'est devant la Cour de cassation qu'il faut réouvrir les dossiers. Ici, s'agissant de nouvelles révélations, de nouveaux témoignages recueillis auprès de personnes qui étaient acteurs dans les dossiers, il reviendra au ministère public, ici le procureur général pour la Cour de cassation, de faire un réquisitoire afin de demander au premier président de la Cour de cassation de refixer cette cause. Certainement, il doit d'abord requérir encore ce témoignage-là sur base d'un procès verbal. Et à ce moment-là, une fois qu'il a réuni les nouveaux éléments, parce qu'il ne doit pas seulement demander une révision sur base des médias, il doit effectivement mettre la main sur ces nouveaux témoins par toute voie de droit et par des mécanismes de collaboration inter-parquet. Parce que là où se trouvent ces témoins-là, il y a un parquet, on peut mettre la main sur eux, éventuellement les verbaliser et peut-être les renvoyer par voie d'extradition vers le pays pour qu'ils soient entendus et faire objet d'un nouveau procès.
Lorsque les témoins à charge sont à l'étranger, comment la justice congolaise peut-elle s'y prendre?
Avec les témoins qui sont très éloignés, il se pose encore un problème parce que ce sont ces témoins-là qui vont faire provoquer la réouverture du procès. C'est ces témoignages-là qui constituent le fait nouveau, ces témoignages-là qui constituent des éléments inconnus. Et lorsque on ne sait pas encore mettre la main sur ces témoins-là, du fait de leur distance, on ne saura pas réouvrir un procès sur base de déclarations faites très loin. Avec la technologie aujourd'hui, il se pourrait que ceux qui parlent dans les médias ne sont pas ceux-là vraiment qu'on chercherait ou qui étaient acteurs. Il faut que ces témoins, où qu'ils sont, soient entendus là-bas. C'est un procès qui va paraître au ministère public. Éventuellement, le ministère public de la RDC puisse demander leur extradition pour qu'ils viennent témoigner devant le parquet congolais, qui non seulement peuvent les entendre en titre de témoins, mais aussi les inculper pour avoir été acteurs dans les dossiers. À ce titre-là, le fait de ne pas les avoir avec nous, le fait qu'ils soient éloignés, constituerait un obstacle à toute ouverture de ce procès-là. Ça risque de rester au niveau des prétentions, des intentions, sans qu'une réouverture effective n'ait lieu.
Peut-on parler de la réouverture du procès ou de la remise du procès?
Au cas où l'effectivité de la reprise du procès est obtenue, il s'agira bien sûr d'une réouverture du dossier.
Maître Willy Wenga, quel commentaire faites-vous par rapport au rebondissement de cette affaire 10 ans après?
Ça serait une très bonne chose quand même, vous savez que parmi les choses qu'on décrit dans les précipitations de procédures, arrêter de condamner les innocents, de laisser les criminels se promener. Cette révision serait une très bonne chose dans la justice congolaise, dès lors que ça permettra à ceux que ceux-là qui avaient commandité, au moins par ce témoignage, on les connaîtra, on mettra la main sur eux et la justice sera définitivement rendue.
Maître Willy Wenga, nous vous disons merci d'avoir bien voulu nous accorder cet entretien.
Merci à toute l'équipe qui a conclu à la production de ce journal. La coordination est assurée par Élisée Chikota, Alain Rung était à la supervision et Willem Lungamba a assuré la mise en onde. Vous pouvez trouver ce journal comme l'ensemble de nos informations sur www.radiokapi.net.